Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, vous êtes bien sur Syllab, vous écoutez votre émission d'actualité locale. Des cheveux bleus, un ciré jaune, la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle se reflétant dans ses yeux et un chapelet au cou. Vous vous demandez de qui je parle ? Ce personnage tiré tout droit d'un manga s'appelle Luce. Et Luce, lumière en latin et en italien, c'est la nouvelle mascotte tendance du Vatican. Son but, séduire les jeunes chrétiens pour le jubilé 2025 qui se tiendra à Rome. Du côté des pratiquants et pratiquantes les plus traditionnels, ça grince des dents. Pour info, le dessinateur italien de Luce, Simone Legno, a signé en 2020 des illustrations pour les marches des fiertés de Los Angeles et de San Francisco. Très populaire au sein de la communauté LGBTQIA+, il a aussi créé une marque de vibromasseurs. Pas du goût de tout le monde au Vatican. Tout de suite, le flash d'Eva.
Le nouveau point de passage Kisoufim a été ouvert aujourd'hui à Gaza. En plus des 4 autres points de passe, l'armée israélienne a annoncé dans un communiqué son ouverture afin de faire transiter les camions d'aide humanitaire. Ce nouvel accès est créé quelques jours avant la date butoir fixée par les États-Unis. En effet, il y a un mois, le gouvernement états-unien avait fait pression sur les autorités israéliennes. Ces dernières avaient 30 jours pour renforcer l'aide humanitaire apportée aux Palestiniens et Palestiniennes. Après la COP 16 sur la biodiversité le mois dernier, place à la COP 29 sur le changement climatique. Ce sommet annuel se tient depuis hier et jusqu'au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Les représentants des 197 États signataires sont attendus, mais les négociations commencent mal. En effet, pour la deuxième année consécutive, le pays qui reçoit la COP est un grand exportateur d'énergie fossile.
Aïe.
Rappelons qu'un des enjeux majeurs des prochaines années est de sortir des énergies fossiles. D'autres objectifs importants sont également discutés, comme le financement de la transition énergétique et surtout les plans d'action des États membres pour l'horizon 2030. Avis à tous les parents qui nous écoutent. Il y a du nouveau concernant l'apprentissage de vos enfants à l'école.
Et oui, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation du gouvernement Barnier, annonce aujourd'hui son acte 2 du choc des savoirs. Comprenez par là des nouveautés pour les collèges et les lycées. Au collège d'abord, les groupes de besoins vont continuer pour les 6e et 5e et s'appliqueront aussi aux 4e et 3e dès l'année prochaine. Cette répartition en groupes aura lieu seulement une heure par semaine. Les élèves étudieront une semaine sur deux en alternance du français et des maths. La ministre souhaite aussi que 800 000 collégiens en fin de cycle aient accès à des stages de réussite et au dispositif Devoirs faits. Ce dernier consiste en un temps gratuit en dehors des cours où l'élève est accompagné pour faire ses devoirs. Ensuite, à partir de la rentrée 2027, le brevet deviendrait obligatoire pour passer en classe de seconde. Celles et ceux qui n'obtiendront pas le précieux sésame pourront partir en CAP ou bien intégrer une classe prépa seconde. Ce dispositif mis en application depuis septembre permet aux élèves de bénéficier d'une année complémentaire pour renforcer les acquis du collège avant d'aller au lycée. Toujours en ce qui concerne le brevet, la note d'histoire-géographie sera maintenant différenciée de celle d'enseignement moral et civique. Le but, revaloriser à la fois l'EMC et les élèves qui auront directement la mention très bien s'ils ont 18 ou plus. Le baccalauréat n'est lui non plus pas épargné puisque la ministre annonce une nouvelle épreuve anticipée. À partir de 2026, une épreuve de mathématiques aura lieu en première, à l'image de l'épreuve de français. Reste à savoir comment sera mis en place cet examen, les classes de première n'ayant pas toutes le même programme en maths. Enfin, on apprenait jeudi dernier la suppression de 4000 postes d'enseignants pour 2025, justifiée selon la ministre par la baisse de la démographie scolaire. Aujourd'hui, Anne Genetet annonce
annonce la création de postes. 2000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, 150 conseillers principaux d'éducation.
Ça va aller, Aglaé, t'inquiète. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, ces nouvelles.
Et 600 surveillants. Par toutes ces mesures, Anne Genetet entend s'inscrire dans la continuité.
Tu vas y arriver ou pas? On est sur un fou rire comme jamais dans ces armes. Est-ce que tu veux que je fasse la fin de ton papier, Aglaé? Franchement, tu me la revaudras, celle-là. Donc, nous vous disions que Anne Genetet entend s'inscrire dans la continuité de l'ancien ministre de l'Éducation le 5 décembre 2023. Après s'être inquiétée de la chute de niveau des élèves, Gabriel Attal avait annoncé le premier acte de son plan d'action. Déjà lorsqu'il avait proposé de mettre en place des groupes de niveau au collège, la proposition avait fait bondir les profs et les parents d'élèves. Leur sentiment n'a pas changé et ils et elles accueillent les annonces de Anne Genetet de la même manière. En cause, un chamboulement des emplois du temps des collégiens déjà bien chargés, mais aussi un manque de personnel pour la rentrée 2024. 3185 postes n'étaient pas pourvus.
Merci Louise.
Bravo Aglaé.
Merci à vous deux. Et d'ailleurs, est-ce que vous auriez envie de faire un tour du monde, Héloïse?
Ah bah oui, bah bien sûr.
Je comprends. Attention,
ça va sans dire.
Il y a un piège, car c'est seul, sur un bateau, sans escale et sans assistance. 40 navigateurs internationaux ont décidé de relever le défi en participant au Vendée Globe. Depuis dimanche, ces passionnés de l'extrême sont partis pour un voyage de 45 000 km avec un tour de l'Antarctique à faire avant de revenir en France. Ça dure environ 70 à 80 jours et vous, chers auditeurs, chères auditrices, pouvez les suivre le long de leur aventure sur le site du Vendée Globe.
Trop bien!
L'ex-footballeur international français Wissam Ben Yedder a été condamné aujourd'hui. Cette affaire date de mi-octobre et le délibéré du tribunal de Nice est tombé ce mardi. L'ancien capitaine de l'AS Monaco est reconnu coupable pour agression sexuelle en état d'ivresse sur une jeune femme de 23 ans. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire et obligation de soins. Du côté du foot rennais, c'est une bonne nouvelle qui est tombée hier soir avec l'annonce de l'arrivée d'un nouvel entraîneur au Stade Rennais. L'Argentin Jorge Sampaoli, ancien coach de l'Olympique de Marseille, a été choisi par le club breton pour reprendre le poste d'entraîneur après le licenciement de Julien Stéphan jeudi dernier. Après les quelques défaites que les Rouges et Noirs ont subies, on espère que l'arrivée de Jorge Sampaoli fera que la roue tourne va tourner.
Mais enfin Eva, t'as trop regardé Ribéry toi, hein? Ça va pas, non? Complètement folle ces services civiques aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Dans le cadre des mardis de l'égalité, l'université Rennes 2 organisait jeudi dernier un théâtre forum sur les violences sexistes. Aglaé s'y est rendue.
Bienvenue, merci d'être là.
18h15, dans le Grand Amphi L3, le théâtre forum commence. Mélina, membre d'une compagnie de théâtre, nous explique.
Le théâtre forum, ça fait partie de ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé. C'est plusieurs méthodes en fait qui utilisent le théâtre dans un but d'émancipation. Et donc là, en l'occurrence, on vient jouer des scènes d'oppression qui peuvent être vécues dans la vie des gens. Et on essaye de les transformer, de proposer d'autres versions, d'autres manières de réagir, de remplacer soit les personnages qui sont opprimés dans la scène, soit les personnages témoins, pour que ces personnages reprennent de la puissance dans les situations. Et voilà, c'est des espaces d'entraînement qui peuvent nous donner de la force dans la vraie vie.
Polka, autre membre de la compagnie.
Comment ça va se passer ? Nous, on a préparé en amont 2 scènes avec des situations qui parlent de violences sexistes et qui vont être jouées ici. Et ce qui va se passer, c'est que la scène va être jouée une première fois. À la suite de quoi, on va faire un débrief avec le public et demander au public qu'est-ce que le public a vu dans la scène. Et une fois ça fait, on va pouvoir rejouer la scène. Et lorsque la scène sera rejouée, les gens du public qui ont envie d'essayer de proposer, d'apporter une solution plus satisfaisante à la scène, vont pouvoir proposer de remplacer un des personnages.
Donc je voulais te proposer de venir dans mon bureau.
Maxime est un habitué des théâtres forums. Cette fois, il est spectateur.
Je trouve que c'est vraiment un outil hyper puissant pour se mettre dans des situations qu'on vit dans le quotidien, mais dans un cadre qui est sécurisé, sécurisant, et qui permet de s'entraîner, de sentir et de voir aussi comment ça fait de réagir dans des moments où dans la vraie vie... Peut-être on n'ose pas, on se sent pas, on sait pas quoi faire. Ben là, on va plus s'outiller et s'armer pour réagir face à ça. Donc je trouve ça vraiment chouette.
Et évidemment, pas besoin d'avoir fait du théâtre pour participer.
Et restez à l'affût, d'autres théâtres forums sont prévus, notamment sur l'antivalidisme et l'antiracisme. Pour les primaires, les collégiens ou lycéens, des ateliers sont organisés du 12 au 29 novembre 2024 au Musée des Beaux-Arts à Rennes. Ces activités scolaires sont réalisées dans le cadre des Journées nationales prison, afin de sensibiliser les plus jeunes aux thématiques carcérales. Les ateliers sont intitulés « Le procès d'une œuvre ». Ils durent une heure et sont gratuits.
Merci Eva pour ce flash. C'est bon, Aglaé a fini de rigoler, elle peut accueillir ses deux invités.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Oui, aujourd'hui, nous accueillons le mouvement Antitech Résistance. Donc, en face de moi, j'ai Arthur, lunettes et pull gris. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à ma droite, Birdie, coupe carrée et pull rouge. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Antitech Résistance ?
Oui, alors Antitech Résistance, c'est un mouvement révolutionnaire d'écologie radicale qui est né il y a 2 ans, suite au constat de l'échec de la lutte écologique, et qui donc actuellement se concentre sur la diffusion de la technocritique. Donc, autrement dit, de la critique du système technologique qui va se caractériser par un ensemble de connexions, par une connexion entre un ensemble de machines et qui aujourd'hui est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre avec ses transports, ses communications, ses data centers, etc.
Et concrètement, quels sont vos objectifs et par quels moyens est-ce que vous les atteignez ?
En fait, Antitech Résistance, c'est un mouvement qui va se différencier, qui va se séparer en 3 phases. C'est-à-dire que là, on est dans une première phase qui va être d'essayer de diffuser la technocritique, de diffuser aussi l'envie révolutionnaire qui actuellement n'existe plus vraiment, et aussi essayer de rassembler un maximum de personnes autour d'un objectif qui va être du coup de viser l'arrêt et le démantèlement du système technologique.
Et parmi tous ces objectifs, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi donc la volonté d'abolir l'aristocratie technocratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Eh ben, je dirais que la technocratie, c'est un concept qu'on utilise pour désigner un peu les architectes de ce système techno-industriel, c'est-à-dire ceux qui designent les ponts, les autoroutes, les aéroports. Ceux qui maîtrisent tous les codes en fait, matériels de cette infrastructure. Et par exemple, on va se distinguer un petit peu du marxisme classique en disant que oui, il y a les capitalistes, mais les capitalistes, ils n'exploitent pas les travailleurs comme ça. Ils les exploitent grâce à des moyens matériels toujours plus perfectionnés, de contrôle, de surveillance, etc. On peut penser au centre logistique Amazon, par exemple, où là maintenant, les travailleurs sont complètement robotisés, en fait. Et les travailleurs sont amenés jusqu'à ce centre par tout un tas d'infrastructures de transport, etc. Et cette classe technocrate, ça peut être typiquement les ingénieurs, c'est des gens qui en fait sont aussi les gagnants, toujours les gagnants de ce système-là, mais qui ne sont jamais pointés du doigt, qui ne sont jamais conscientisés. Et voilà, c'est un peu l'aristocratie du savoir plutôt que l'aristocratie de l'avoir, on va dire. Voilà, c'est un peu un point aveugle qu'on essaye de pointer du doigt justement, notamment dans le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est des gens qui ont une grande responsabilité dans le développement de nouvelles armes, de nouvelles inventions dangereuses, quoi.
Mmh. Et justement, à propos de l'intelligence artificielle, vous organisez des mobilisations citoyennes contre la contribution du gouvernement qui est à hauteur de 20 millions d'euros pour faire de la ville un pôle majeur de la recherche sur l'IA, justement. C'est bien ça, enfin, est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet ?
Antitech Résistance fait partie de l'Assemblée anti-industrielle de Rennes. L'Assemblée anti-industrielle de Rennes organise depuis avril ou mai dernier des mobilisations contre l'intelligence artificielle. Donc au sein de cette assemblée anti-industrielle, il va y avoir aussi d'autres collectifs et des personnes aussi qui ne font pas partie de collectifs. On a commencé par une manifestation, une journée aussi de sensibilisation avec différents stands. On a continué en effet avec la semaine de l'IA qui a eu lieu en septembre dernier et qui se passait justement à Rennes, et on a empêché cette semaine de l'IA d'avoir lieu en bloquant les conférences. Voilà. Et du coup, ce que propose l'Assemblée anti-industrielle prochainement, ce sont des actions contre la Cyber Week qui va se passer au couvent des Jacobins à Rennes. Après, en particulier, nous, Anti-Tech Résistance, on va plutôt proposer des journées de conférences comme la journée du 17 novembre, où il y aura toute une journée de conférences de sensibilisation à l'intelligence artificielle et à toutes ses implications. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette idée que l'IA elle serait verte et elle serait un peu là pour le bien de la population, pour instaurer une démocratie, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment de très grandes implications qui ne sont pas du tout démocratiques, qui ne sont pas du tout vertes et qui ne sont pas du tout là au bien de la population. Voilà, je ne sais pas si je peux en dire un peu plus.
Par exemple, concrètement, c'est quoi les dangers de l'IA selon vous ? Est-ce qu'il y a vraiment tout à jeter dans l'IA ?
Actuellement, ce qu'on observe, c'est que l'intelligence artificielle, elle est utilisée par exemple dans la guerre en Palestine pour généraliser des massacres automatiquement, et que le nombre de victimes, en fait, il ne fait qu'augmenter. Mais ça va être aussi, par exemple, en Inde, où l'IA est utilisée pour mener des dictatures. Elle est utilisée aussi en Chine avec le crédit social et actuellement aussi aux États-Unis. On ne parle pas encore de dictature, mais on a Donald Trump qui a été élu de manière pas très démocratique parce que y a Elon Musk en gros qui a utilisé Twitter pour essayer de cibler grâce à ses algorithmes des profils qui pourraient avoir des intérêts pour Donald Trump. Et en gros, comment le dire, ils ont essayé d'établir des critères, ils ont fait du profilage en fait grâce à l'intelligence artificielle, et en fonction des intérêts de la population, ils leur ont envoyé du contenu sur Donald Trump qui pourrait en fait aller dans leur sens et du coup qui les mènerait à voter pour Donald Trump. Et ça, Elon Musk l'a bien dit qu'il a favorisé l'algorithme de X, du coup, maintenant qu'on appelle, en faveur de Donald Trump. Donc ça, c'est quand même un fait antidémocratique. Après, on a aussi on peut aussi parler de guerre contre la nature, hein, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle consomme énormément d'eau. Le fait auquel je pense, c'est Google. Google qui, entre 2018 et 2022, dans ses prélèvements d'eau pour refroidir ses data centers, ça a augmenté de 82% selon les chiffres de reporters. Voilà. Enfin, en fait, il y a plein de faits, je pourrais continuer comme ça, ça n'en finit pas. Voilà, peut-être que tu veux...
Ben, c'est vrai que, par exemple, sur le côté écologique, moi j'avais un autre chiffre là qui est sorti d'un rapport des GAFAM eux-mêmes en fait, qui font leurs projections pour les années à venir, et ils prévoient doubler d'ici à 2026 la consommation d'électricité de leur data center. Donc en fait c'est monstrueux comme truc, c'est une croissance exponentielle quoi. Et là on parle de un an et demi, deux ans. Et en fait ce qu'il faut se rendre compte sur le coût écologique, c'est que ça dépend pas des usages en fait. Souvent on a tendance à dire bon la technologie elle est neutre parce qu'il y aurait des bons, des mauvais usages. Mais en fait, peu importe qu'est-ce qu'on en fait de l'IA, il faudra toujours des data centers, il faudra toujours aller dans les mines, en fait, qu'il y ait des enfants dans les mines, aller chercher des métaux, etc., de plus en plus pour tout numériser, avoir de plus en plus de terminaux, de téléphones portables, d'ordinateurs, etc. Il faudra toujours plus d'eau, d'électricité, donc en fait, c'est une machine infernale, même si on fait plein de lois partout pour encadrer tous les usages militaires et policiers, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est aussi en ça qu'on remet en cause, nous, Anti-Tech Résistance, la technologie. C'est pas seulement sur les usages, qui sont très souvent néfastes pour la liberté et la dignité humaine, mais aussi sur le coût de production intrinsèque de la technologie, qui est forcément complexe et donc qui demande des grandes chaînes de production destructrices, quoi.
Mmh. Et en parlant justement de destruction de l'environnement et de tout ça, la COP29, comme le disait Eva, s'est ouverte hier. Et donc il a été annoncé qu'on allait utiliser énormément la technologie pour pallier les dérèglements climatiques. Donc pour vous, c'est pas possible de lier les deux.
Ben, je dirais que c'est même pas que pour moi, en fait, c'est juste empiriquement quand on regarde la réalité. Pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, ça fait du coup, c'est quasiment la 30e COP qu'on nous dit qu'on va pallier le changement climatique. Et on s'est donné des objectifs, mais les objectifs, on les tient pas. Il y a l'objectif de la COP 21, donc celle qui était à Paris en 2015, hein, qui est souvent repris. Donc c'était limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100, et voire 2 degrés vraiment max. Et en fait, là, il y a l'Observatoire européen sur le climat, qui s'appelle Copernicus, qui a sorti des chiffres, et qui nous dit que octobre 2024, c'est le 15e mois dont la température moyenne dépasse 1,5 degré de réchauffement. Donc ça fait 15 mois en fait, qu'on est déjà au-dessus d'1,5. Symboliquement, en fait, là, 2024, c'est pareil, une année où on aura connu au niveau mondial que des températures au-delà d'1,5 degré en moyenne. Donc en fait, on y est déjà. À ce stade-là, en 2024, pas en 2100, donc ça marche pas. Et on voit qu'on touche déjà aux capacités d'adaptation de nos sociétés. On l'a vu à Valence, où en fait, quand il y a des trombes d'eau comme ça qui se déversent dans des villes construites dans des infrastructures pleines de béton, en fait, on peut pas s'adapter, ça marche pas. Et c'est structurel, quoi. Et on voit aussi des sociétés, donc dans des pays moins dotés en ressources, quoi, en Afrique notamment, le Malawi, le Zimbabwe, où en fait il y a des phénomènes climatiques extrêmes qui se répètent et qui vont s'accentuer les unes aux autres, donc des sécheresses longues, des précipitations intenses, etc., des glissements de terrain, et où la société elle est complètement... elle est sous le choc, en fait, elle est sonnée, elle ne peut pas se relever. Et là, on est qu'à 1,5 degré de réchauffement. Rappelons que fin octobre, le programme des Nations Unies pour l'environnement, il a alerté sur le fait que là, si tous les pays respectaient les mesures qu'ils s'étaient fixées, on aboutirait en fin de siècle à un réchauffement catastrophique de plus 3,1 degrés, ce qui signifierait plus 4 degrés en France, parce que ça se réchauffe plus vite sur les continents que sur les océans. Donc plus 4 degrés, c'est juste incontrôlable, c'est infernal, en fait, on ne s'adapte pas. Et ça, c'est si les États respectent leurs ambitions. Bon, bah, je crois que l'élection de Trump a montré que ça ne va pas être le cas, en fait. Donc nous, vis-à-vis de tout ce contexte-là, à Antitech Résistance, on essaie de dégager deux choses. Déjà, plutôt que d'essayer de chercher une adaptation chimérique, en fait, il faut à tout prix atténuer, donc arrêter les émissions de gaz à effet de serre, donc arrêter la méga-machine industrielle, sortir de la société industrielle, quoi, le plus vite possible. Et puis la deuxième chose, c'est que cette sortie de la société industrielle, elle se fera pas par les dirigeants des grandes entreprises, des grands États, parce qu'ils sont complètement pris dans une lutte de puissance internationale, soit pour le profit, soit juste pour la puissance, pour la sécurité, etc. Donc on développe l'IA à tort et à travers, on fait n'importe quoi, on va dans l'espace, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et donc il n'y a pas de limite, en fait. Et donc la seule chose qui peut donner des limites, c'est le peuple, en fait, c'est une décroissance populaire radicale, où des gens essaieraient d'enrayer eux-mêmes en fait, la méga-machine, quoi, en essayant de penser stratégie. Et voilà, moi, j'ai vu hier une vidéo d'une manifestation à Valence, donc il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue pour protester en fait, contre leurs dirigeants, et ils avaient une banderole qui disait ben, le peuple doit se protéger lui-même, quoi. Vraiment ce truc, on ne peut rien attendre des autres. Et ça, c'est notre ligne, en fait, en Antitech Résistance.
Moi, je voudrais... revenir du coup, enfin un peu compléter en revenant sur l'intelligence artificielle, où en fait justement l'intelligence artificielle elle va augmenter le conflit d'accaparement de ressources, et on le voit déjà actuellement où il y a de plus en plus de guerres, et en fait ça promet de faire disparaître toute vie sur Terre. Et en fait, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle aussi de quelque chose de plus grand, parce que finalement l'intelligence artificielle c'est que la finalité de tout un système technologique, industriel, et contre lequel il faut se battre. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle répond à cette quête de superpuissance des États, des industries. Et c'est pour ça que nous, avec Antitech Résistance, mais du coup au sein de l'Assemblée anti-industrielle de Rennes, on propose des premières actions contre la cyberweek, avec une première assemblée, ce dimanche 17 novembre à 16h, pour réfléchir justement à quelles actions on pourrait faire contre la cyberweek, pour dénoncer un peu ce massacre qui a lieu actuellement sur Terre contre la nature et contre les humains.
Mmh. Donc pour vous, il faudrait sensibiliser un maximum, et le but ce serait de déconstruire le système, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est possible de sortir de ce système industriel, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est pas un peu utopique comme on pourrait le penser.
Je vais citer Pablo Servigne, qui a écrit un connu pour un bouquin sur l'effondrement, la collapsologie. Il disait « Aujourd'hui, l'utopie a changé de camp. Est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. » Et c'est un peu aussi notre posture, de dire en fait, c'est compliqué, c'est difficile, on ne dit pas l'inverse, mais c'est le seul espoir qui nous reste en fait, c'est la seule aventure qui nous reste. Sinon, c'est la décroissance ou la mort, on pourrait dire, la sortie de la société industrielle ou la mort.
Vous parlez de collapsologie, sur votre site on peut voir aussi que vous proposez des ateliers de survie, enfin de bushcraft, je crois qu'on dit.
Oui, ça.
Voilà, pour que les gens sachent se débrouiller en pleine nature. Est-ce que vous, à Antistack Resistance, vous vous reliez un peu au survivalisme? Est-ce que vous vous considérez survivaliste?
On se considère pas, on se donne pas on se détermine pas enfin survivaliste ou quoi que ce soit. C'est plutôt on fait des entraînements où on essaie de se réapproprier notre corps, des outils, des savoir-faire, essayer de se débrouiller aussi par nous-mêmes et collectivement, ce que en fait finalement l'État nous a complètement retiré, parce qu'aujourd'hui on dépend de l'administration, de grandes infrastructures, on ne sait plus faire grand-chose par nous-mêmes. Et au vu d'un risque d'effondrement aujourd'hui qui augmente chaque jour, c'est un peu cette idée aussi qu'on arrive à se débrouiller par nous-mêmes. Voilà.
Ouais, c'est exactement ça. C'est se dire on part de tellement loin. Et là, le développement de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est oublier des savoir-faire, ne plus faire nous-mêmes, déléguer à une machine. Et en fait, voilà, juste savoir cuisiner, repérer des plantes dans la forêt, savoir trouver de l'eau, etc. C'est des trucs très basiques que tout le monde devrait savoir faire, en fait. Et je pense à la Croix-Rouge, notamment, qui avait sorti il y a quelques mois un article où elle disait qu'il fallait que tout le monde ait son bob. Donc un bob, c'est un sac d'évacuation chez soi. Mmh. Et elle a dit il faudrait que tout le monde ait son sac d'évacuation chez soi en cas de catastrophe climatique, etc. Pour autant, on ne dit pas que la Croix-Rouge est survivaliste. Mmh. Voilà. Mmh.
Et aussi, donc on l'a compris, vous luttez contre la technologie. Pour autant, vous vous en servez pour votre communication, vos réseaux sociaux. Donc, c'est quand même bien utile.
Aussi. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
Oui. Il y a des groupes en fait qui critiquent la technologie. C'est souvent le cas des groupes technocritiques en fait en général. C'est des gens qui critiquent la technologie et qui du coup ne l'utilisent pas. Se disent on va déserter le système, on n'utilise plus nos smartphones, plus nos ordinateurs, etc. Bon déjà c'est une position de privilégié qui aujourd'hui est capable de déjà ne plus être dans le salariat et donc ne plus. Enfin, bon déjà il faut des ressources. Donc c'est pas le discours qu'on veut tenir. Et d'autre part nous on est attaché à l'efficacité, c'est-à-dire dans les luttes. En fait si on fait ça. En fait, on ne s'organise plus, parce qu'aujourd'hui, si on n'est plus sur les réseaux sociaux, si on ne va pas dans votre radio là aujourd'hui, on ne fait pas passer un message. Donc en fait, on assume cette position qui est de dire on veut démanteler le système. Par contre, pour le faire, on va être efficace et on va s'organiser et on va utiliser tous les outils à notre disposition pour ça.
Mmh. Donc vous n'êtes pas technophobe, vous?
Non, on n'a pas peur, on l'utilise, on est très à l'aise dedans, mais c'est justement parce qu'on connaît les implications qu'on ne l'aime pas, cette technologie.
Mmh. Et aussi dans votre mouvement, donc vous avez dit que vous aviez bloqué des événements comme la semaine de l'IA, c'est bien ça?
L'Assemblée anti-industrielle de Rennes, pas Antistack Resistance.
Et donc, est-ce qu'Antistack Resistance est aussi anti-violence? Enfin, est-ce qu'elle l'utilise pendant les manifestations ou autres?
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Je n'ai pas très bien compris.
Est-ce que vous utilisez des moyens plus violents, entre guillemets, que la norme pour vous manifester, entre guillemets?
Non. Nous, on est un mouvement donc légal et non violent. Donc, on ne recourt pas à des méthodes clandestines ou du coup de sabotage ou autre, quoi. On est surtout un mouvement là pour développer la technocritique, s'organiser, voilà, se renseigner, etc. Pour autant, on ne condamne pas d'autres formes d'action plus radicales. On n'estime pas que la non-violence elle est plus pure moralement ou quoi que ce soit. C'est plus, nous, c'est notre méthode d'action. On estime qu'il ne faut pas mélanger différentes méthodes d'action. Nous, c'est la nôtre. On est efficace là-dedans, donc on fait ça.
Mm-hmm. Ok,
Merci à vous deux.
Merci
on va
beaucoup.
Devoir conclure là, malheureusement. Juste pour conclure, peut-être parler de la prochaine action du 17 novembre, c'est peut-être ça que vous vouliez dire.
Ouais. Moi j'aurais voulu essayer de conclure un peu, essayer de lancer un message d'alerte en m'adressant à tous les écologistes, aussi à tous les militants, peut-être des féministes, je ne sais pas, à toutes les personnes qui peut-être nous écoutent, et aussi une pensée aussi aux plus jeunes générations qui peut-être n'auront plus les moyens de lutter dans quelques années. Je peux vous lire une petite citation que j'aime beaucoup de Félix Tréguier, qui a écrit « La technopolis à l'ère de l'intelligence artificielle ». Et il dit « Si les technologies de reconnaissance faciale avaient été déployées à grande échelle au début des années 1940, nos grands-mères et nos grands-pères qui ont rejoint les réseaux de la résistance n'auraient pas tenu plus de 3 semaines en clandestinité ». Voilà, donc ça montre vraiment l'urgence qu'il y a à résister aujourd'hui, parce que peut-être que demain, on ne sait pas ce qu'il en sera. On a des technologies qui se développent à grande ampleur aujourd'hui et qui sont aussi destinées à réprimer grandement les mouvements sociaux. Voilà. Du coup, nous, on vous donne rendez-vous le dimanche 17 novembre de 10h à 16h pour une journée de conférence. Il y aura différents collectifs. Il y aura l'Association française contre l'IA, il y aura Stop Kyle Robot, il y aura des artistes aussi qui vont faire une conférence intitulée L'art contre l'IA, qui aura lieu à 14h. On va parler du nouveau ChatGPT-5, il y aura aussi XR qui sera là, Extinction Rebellion, qui va parler du greenwashing de l'IA. Bref, il y aura beaucoup de thématiques qui vont être rassemblées sur toute une journée. Et ensuite, on aura aussi l'Assemblée anti-industrielle de Rennes qui aura lieu à 16h. Pour parler de la Cyber Week. La Cyber Week, j'en ai peu parlé finalement, mais en fait c'est un congrès sur l'innovation qui se concentre cette année sur le développement, la promotion de l'intelligence artificielle dans l'armée. Et on sait aujourd'hui quels sont les résultats. Il y aura notamment Thales et Airbus qui sont aussi complices du massacre en Palestine, puisqu'ils ont livré des armes. Il y aura la DGA, il y aura la MIAD qui prévoit de développer un pôle de recherche en intelligence artificielle sur Rennes et qui veut créer de super calculateurs, hein, et on sait qu'à quel point ils sont énergivores. Voilà, donc c'est un peu les raisons pour lesquelles l'AG anti-industriel de Rennes a décidé de mener des actions contre la Cyber Week. Il y a un gros potentiel de dénonciation, mais c'est aussi dans l'objectif d'être médiatisé, c'est de rassembler un maximum de personnes contre l'intelligence artificielle. Donc ça sera lié à 16h et les actions, je ne sais pas quand elles auront lieu, puisque ça va être décidé dimanche à 16h. Mais par contre, en contrepartie, nous, avec Anti-Tech Résistance, on propose aussi un camp de formation à sensibilisation contre l'intelligence artificielle du 18 au 21. Et du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Concernant le lieu aussi de journée de la conférence de dimanche, ça aura lieu au 10 avenue des Français libres, c'est près de la gare. Et l'assemblée anti-industrielle, elle aura lieu dans un square juste à côté, qui s'appelle Square des Français Libres. Voilà.
Voilà, le rendez-vous est pris. Merci à vous deux d'être venus dans le studio de Syllab.
Merci beaucoup.
6 heures avant minuit.
Ça a lieu une fois par mois. C'est la chronique Apocalypse Mémé d'Aglaé. Et c'est maintenant.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Apocalypse Mémé. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au motif de la guerre dans la littérature. Vaste sujet, tristement d'actualité. Alors je ne vais pas vous expliquer la situation, déjà parce qu'en 3 minutes je ne pourrais même pas dire un dixième des informations, et ensuite parce que ça outrepasse largement mes compétences. Alors mon conseil, c'est que vous alliez vous renseigner vous-même, mais je vous parle pas de regarder CNews, on s'est compris évidemment. Je peux plutôt vous recommander des lectures, par exemple Chronique de Jérusalem de Guy Delisle, qui vous explique en croquis le conflit israélo-palestinien. Pour revenir à la guerre dans la littérature, j'ai jeté un coup d'œil dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que je n'ai pas autant de livres sur le sujet que je ne l'aurais cru. Seulement deux. Deux classiques qui parlent de la guerre dans deux périodes très éloignées, l'Iliade d'Homère et À l'Ouest rien de nouveau de Éric Maria Remarque. Je vais commencer par vous parler de l'Iliade. Sachez que je le connais par cœur. Pendant mes études de lettres et de lettres modernes, je l'ai étudié en long, en large et en travers. Alors ce livre, on estime qu'il a été écrit environ au 8e siècle avant Jésus-Christ, par un Aède, donc un poète en gros, dénommé Homère. En vrai, il y a de fortes chances pour que le bouquin ait été écrit par plein de types différents. Enfin, ce n'est pas notre question aujourd'hui. Donc c'est une épopée, donc dites-vous que c'est un long poème. L'histoire se passe durant la guerre de Troie, la fameuse guerre où Troyens et Grecs se foutent sur la tronche car Hélène, la plus belle grecque et épouse du roi Ménélas, est enlevée par le prince de Troie, Paris. Si vous voulez lire ce classique, tenez-vous prêtes et prêts car la lecture est assez fastidieuse. Voici les tout premiers vers du chant 1.
Chante, ô déesse, le courroux de Péléide Achide, courroux fatal qui causa mille maux aux Achéens, et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses, de héros dont les corps servirent de pâture aux chiens, et aux oiseaux sans nombre. Ainsi Zeus l'avait-il voulu.
Intéressant, hein? Maintenant, je vais vous parler du roman À l'Ouest, rien de nouveau, publié en 1929. Je l'ai lu pour un cours de français il y a pas mal de temps, probablement au lycée. Je ne me souviens pas exactement de l'histoire, mais je sais qu'il m'avait fait une forte impression. Le personnage principal, Paul Baumeur, 19 ans, est déjà plongé dans l'horreur de la Première Guerre mondiale. Éric Maria Remarque a lui-même été un jeune soldat allemand et il parle dans son livre de ce qui l'a marqué à vie, à savoir l'atrocité de la guerre, la peur, la camaraderie, la perte de l'innocence et la souffrance. Il est aussi pacifiste. Il montre que les difficultés sont les mêmes dans les deux camps. Mais les nazis ont eux crié à la trahison et le roman a immédiatement été interdit puis brûlé en 1933 pendant les autodafés. En voici un extrait.
Il tomba en octobre 1918 par une journée qui fut si tranquille sur le front, surtout le front, que le communiqué se barna à signaler qu'à l'ouest il n'y avait rien de nouveau. Il était tombé, la tête en avant, étendu sur le sol comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on vit qu'il n'avait pas pu s'ouvrir longtemps. Son visage était calme et exprimé comme un contentement de ce que cela s'était ainsi terminé.
Je vous conseille fortement de lire ou de relire ce chef-d'œuvre et je vais d'ailleurs moi-même m'y remettre. Ce texte, parmi d'autres, que ce soit le journal d'Anne Frank, Petit Pays de Gaël Faye ou la tombe des Lucioles, d'Akiyuki Nosaka, nous raconte une histoire, celle avec un grand H qu'il ne faut pas oublier. Si par malchance vous n'arrivez pas à vous laisser transporter par les descriptions pourtant extrêmement réalistes et qui personnellement me foutent les jetons, il existe des œuvres plus visuelles, les BD. Alors on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le débat de est-ce que les BD font partie de la littérature ou pas, déjà c'est pas notre sujet et en plus pour moi c'est tout vu, la réponse est oui. Bref, passons. Une très bonne amie à moi, fan de BD, à qui j'ai parlé de cette chronique, m'a conseillé d'évoquer les bandes dessinées de Jacques Tardy, qui rentrent totalement dans le thème. Il a par exemple réalisé la série Moi René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2. Dans cette BD, Jacques Tardy raconte l'histoire de son père militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour être honnête, je ne l'ai jamais lu, mais je les ai feuilletées et je peux vous dire qu'elles en valent le détour. Et si jamais vous aimez le cinéma, en ce moment, à l'Arvor, il y a des films qui selon moi sont très intéressants et rentrent dans notre thématique d'aujourd'hui. Voyage à Gaza, réalisé par Piero Usberti, et Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasoulov. Pour tout vous dire, je ne les ai pas encore vus, mais je me suis promis d'aller les voir. C'était Apocalypse Mémé, votre chronique littéraire apocalyptique à retrouver une fois par mois. Et merci à Cyriane pour sa très bonne lecture.
De rien. Merci à Aglaé, oui Cyriane, c'était vraiment très poétique.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Je voulais juste vous parler du répondeur. C'est pas grave, Timothée, pour la virgule, on s'en fiche. Le message principal, c'est que si c'est vous qui avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous dont vous voudriez nous parler, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages peut-être, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être sûrement diffusé à l'antenne.
Il le sera.
Il le sera. Sauf si c'est injurieux. Hein,
bien sûr. Non,
évidemment.
Donc, peut-être. Merci Timothée pour la technique. On vous dit à demain. Bonne soirée.
Merci.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.